Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Didier Blé.
Excellent début de semaine à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Les titres à la une de l'actualité. L'élection des sénateurs prévue le 16 septembre prochain, les affiches et spécimens de vote ont été remis aux candidats par la commission électorale indépendante. Occasion également saisie par le président de la CEI pour indiquer que le recours devant le Conseil d'État en ce qui concerne les élections locales du 2 septembre dernier ne constitue pas un obstacle à l'organisation des sénatoriales. Actualité africaine, après le séisme, le Maroc accepte l'aide de 4 pays, dont l'Espagne et le Qatar, mais rappelant que le bilan s'alourdit toujours, on dénombre un peu plus de 2000 morts. La revue des titres vous sera présentée par Aoussi Potin, et puis nous aurons en toute fin de journal l'invité de la rédaction. Élection locale du 2 septembre dernier, entre le succès du RHDP et le tour de force des candidats indépendants, quelle analyse peut-on faire de ces résultats? Le sociologue et universitaire Séverin Kwame sera interrogé par Marthe Kakou. Développement de tous ces titres, retenez que nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Jour de rentrée scolaire officielle en Côte d'Ivoire, occasion de retrouvailles pour les anciens élèves avec leurs enseignants, leurs amis de classe. Et pour d'autres, les novices, ce sera l'occasion justement de découvrir un nouveau monde pour les maternelles, pour les CP1, comme pour les élèves de 6e. L'année scolaire étant subdivisée en 3 trimestres, le premier se tient du 11 septembre au 1er décembre 2023, le deuxième trimestre du 4 décembre 2023 au 24 février 2024 et le troisième du 26 février 2024 au 10 mai 2024. La dictée classique est reconduite et les visites de classe auront maintenant un caractère inopiné. Rappelons que la rentrée scolaire 2023-2024 est placée sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». L'élection des sénateurs aura lieu le samedi 16 septembre prochain. Les affiches et spécimens de vote ont été remis aux candidats ou leurs représentants ce samedi 9 septembre 2023 au siège de la CEI centrale par le président de l'institution, témoin pour Radio de la Paix, Junior Cardin.
Après avoir exprimé sa gratitude aux acteurs politiques relativement aux élections locales qui viennent de se tenir, le président de la CEI, Koulibaly Kubière, est allé droit au but devant son auditoire composé de candidats et de représentants de candidats pour l'élection sénatoriale.
Conformément au décret qui a convoqué le collège sénatorial, je vais vous remettre ce matin le collège des grands électeurs pour l'élection sénatoriale, les affiches et puis les spécimens. Les spécimens pour montrer comment on vote et puis les affiches pour présenter ceux qui veulent gérer le Sénat, c'est-à-dire les parlementaires.
Sur le cas spécifique des spécimens, Koulibaly Kubière a apporté un commentaire de taille.
Voyez-vous, rien n'est facile avec vous. Même quand on veut vous aider, on vous donne les spécimens, ça devient un problème. On met dessus spécimens. Mais il y en a qui réussissent à aller enlever spécimens. Je ne sais pas comment ils font. Ils font des montages et on dit, c'est la commission électorale qui leur a donné ça. Mais nous, on vous donne ça pour que vous appreniez à nos compatriotes à voter. Parce que quand un taux de bulletin nul se trouve dans une élection, nous, on considère qu'on a failli.
L'élection des sénateurs est l'affaire des grands électeurs, selon le président de la CEI, qui se veut plus précis.
Et ces grands électeurs sont constitués principalement, mais pas exclusivement, de ceux qui sont issus des élections locales, c'est-à-dire des conseillers régionaux, des conseillers municipaux et des conseillers des districts. Et à côté de ceux-là, il y a les candidats qui sont non élus. C'est-à-dire que quand vous êtes candidat, de facto, vous devenez membre du corps électoral. C'est la seule exception.
La période de campagne est de 4 jours. Elle commence le lundi 14 septembre pour prendre fin le jeudi prochain.
Merci à vous, Junior. Les recours devant le Conseil d'État en ce qui concerne les élections locales du 2 septembre dernier ne constituent pas un obstacle à l'organisation des sénatoriales qui auront lieu le 7 septembre prochain. Cette information a été livrée par le président de la CEI samedi à l'occasion de la remise des affiches et spécimens aux candidats à cette élection des membres de la Chambre haute du Parlement ivoirien, Koulibaly Kubière Ibrahim, dans des propos recueillis par Junior Cardin.
les effets des décisions du Conseil d'État. Alors, vous savez, c'est le code électoral qui le dit. Quand vous prenez l'élection des députés, le code électoral dit que la commission électorale indépendante proclame les résultats provisoires. Mais en ce qui concerne l'élection locale, le législateur dit que la commission électorale proclame les résultats définitifs. Donc, l'intérêt que la décision soit définitive vient de ce qu'on peut utiliser le produit de l'élection. Alors que dans le cas où c'est provisoire, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il n'est pas définitif. C'est ça la différence. Non, nonobstant ces voies de recours, on peut utiliser le résultat de l'élection en matière de l'élection locale. Maintenant, si M. Doumia, à sa liste, qui est déclaré vainqueur, participe à l'élection sénatoriale et puis élit le professeur Niamke, et puis par la suite, au Conseil d'État, la liste de M. Doumia est déclarée, comme on appelle, on a invalidé son élection. On dit alors, est-ce que ça invalide du coup l'élection du professeur Niamke? Mais l'appréciation doit se faire au moment où les choses se font. Au moment où on élisait M. Niamke, qui l'a élu? Mais c'était des conseillers régionaux, municipaux, détenteurs de leur plein pouvoir qui l'ont élu. Si par la suite, les choses ont changé, ça ne remet pas en cause la situation. Il est élu. Mais la liste qui est là est invalidée. On va aller reprendre les élections ou bien on va réajuster, mais au moment où elle élisait, la liste était en possession de ses pleins pouvoirs. Donc, on ne peut pas remettre l'élection du professeur Niamke en cause.
Koulibaly Kubeir Ibrahim, président de la CEI. Éducation nationale, le recrutement en CPE, un cours préparatoire première année qui a démarré le 4 septembre pour prendre fin le 8 du même mois sur toute l'étendue du territoire national, n'a pas connu réel engouement à Boaké. La raison, Joseph Assari, notre correspondant régional dans le Boaké, nous la donne dans ce compte-rendu.
Les parents ne se bousculent pas aux portes des écoles primaires de Boaké pour l'inscription de leurs enfants en classe de CP1, cours préparatoire première année. Témoignage de Bamba Kadidia Traoré, directrice de l'EPPA du groupe scolaire Belleville 3.
Il n'y a pas d'engouement. Nous sommes au troisième jour de l'inscription. On n'a pas encore atteint 25 élèves pour un groupe scolaire de trois écoles. Il y a plus de parents qui viennent avec des enfants à bas âge, 5 ans. Eux prétendent que l'enfant s'exprime bien à la maison. Donc ils se disent qu'ils peuvent inscrire l'enfant. Or, l'État nous a dit de prendre la part de 9 ans jusqu'à 6 ans.
Au groupe scolaire TSF, la situation est plus préoccupante. Précision de l'une des directrices, Sakouma Beolé Christine.
Au niveau de l'école A, cette année, je n'ai pas pu recruter le CP1. Nous avons eu un fort taux de redoublement de 43 élèves. Étant donné qu'au sein de l'école, on a deux écoles maternelles. Donc, les écoles maternelles nous apportent leurs enfants de la grande section. 43 redoublants plus 32 enfants de la grande section, nous sommes déjà à 75 élèves. Au niveau de l'école C, sensiblement les mêmes réalités. Parce qu'elle aussi, elle a eu 35 redoublants. Elle a aussi reçu de la maternelle. Elle est aussi à 70. C'est l'école B qui a eu quand même un bon taux d'admission qui s'est permis quelques recrutements au CP1. Trois écoles primaires, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est la seule école publique qui sert le grand quartier d'Ayondosu, des France 2 et France 3 aussi, du village de Bobo, d'Amanibo 1, d'Amanibo 2 et même de la Sopim. C'est la seule école publique.
Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Intéressons-nous à présent à la fraude sur le gaz butane. Chaque année, le gouvernement subventionne le gaz butane au profit des ménages à hauteur de 40 milliards de francs CFA. L'utilisation de ce produit à d'autres fins est constitutive d'un délit, d'où la mise en garde du directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Boaké à l'endroit des opérateurs de la filière. C'était à l'occasion d'un point de presse vendredi en vue de présenter aux journalistes 50 machines de transvasement de gaz butane saisies. On écoute Fadiga Mamadou.
La commercialisation du gaz butane est réservée exclusivement aux ménages. La commercialisation du gaz butane à d'autres fins qu'à des fins domestiques est une infraction. Nous constatons effectivement qu'à Boaké, beaucoup de revendeurs de gaz s'adonnent donc à la commercialisation du gaz qui est substitué aux hydrocarbures. C'est un gaz qui est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 40 milliards chaque année. Compte tenu des sacrifices qui sont consentis par le gouvernement ivoirien, il n'est pas acceptable que les ménages puissent manquer du gaz butane. En plus, les personnes qui s'adonnent à cette activité illégale, qu'on appelle le transvasement illégal, le font en dehors de toutes les normes sécuritaires en vigueur. Ils le font en dehors de tout agrément pour une profession qui nécessite donc l'obtention d'un agrément. Ils le font donc en altérant les qualités substantielles même du gaz butane. Parce que les bouteilles de gaz butane qu'on appelle ordinairement le B6, la petite bouteille de 6 kg, et celle de 12,5 kg qu'on appelle le B12, répondent à une certaine configuration. C'est des bouteilles qui ont une couleur couleurs par lesquelles on les identifie. Or, lorsqu'on procède au transvasement, il ne se préoccupe pas de la couleur de la bouteille dans laquelle le gaz est transvasé. Les bouteilles de gaz disposent d'un numéro de série. Ça fait partie du process de qualité. En plus de tout ça, les bouteilles de gaz également disposent de ce qu'on appelle le certificat de conformité. Lorsqu'on rentre dans le cadre du transvasement, toutes ces conditions ne sont pas respectées.
Fadiga Mamadou, il est le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Boaké. Actualité africaine, après le séisme, le Maroc accepte l'aide de 4 pays, dont l'Espagne et le Qatar. Le bilan s'alourdit toujours, on dénombre près de 2200 morts et au moins 2400 blessés. Rabat n'a toujours pas demandé d'aide internationale, mais le gouvernement marocain a tout de même accepté l'aide de 4 pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. 56 éléments espagnols de l'unité militaire de secours ainsi que des chiens spécialisés ont été dépêchés sur place pour aider à sortir les possibles survivants sous les décombres. Et puis le ministère des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Álvarez, a précisé que son pays enverrait tous les effectifs dont le Maroc aura besoin pour cette tâche colossale. Intéressons-nous au sport, football. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés face aux Lesotho 1-0 samedi à San Pedro. Au terme du match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football, l'unique but des éléphants a été marqué à la 16e minute par l'attaquant Ibrahim Sangaré suite à une action offensive de l'attaque. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, qualifié d'office, augmente son capital avec 13 points. Son adversaire du jour conserve sa 4e position au sein du groupe H avec 1 point. Et puis dans l'autre match, la Zambie a partagé les points avec les Comores, 1-0. Sans transition, nous allons retrouver pour la revue des titres Aoussi Potin qui nous a rejoint en studio. Potin, bonjour.
Bonjour à vous Didier Blé, bonjour à toutes et à tous. Des titres de une qui font la part belle ce matin aux élections locales et aux sénatoriales 2023 qui, elles, se tiendront le 16 septembre 2023 avec aussi avec quelques journaux qui s'intéressent à ce que l'on pourrait appeler, pour reprendre l'expression d'un tabloïd de ce jour, ce que l'on pourrait appeler donc le problème du riz actuellement en Côte d'Ivoire. Concernant donc les élections municipales et régionales qui ont eu lieu le 2 septembre dernier, le quotidien Le Patriote titre, élections locales, plébiscite du RHDP, rejet du PDC et du PPACI, comment Ouattara a ouvert les yeux aux Ivoiriens. À la une du quotidien Le Sort Ivoirien, c'est un titre en double teinte dans un jeu d'opposition qui s'affiche. Municipales et régionales 2023, le RHDP a conquis totalement Yopougon et puis juste en face dans ce jeu d'opposition, l'autre titre, la chute du mythe Gbagbo, toujours en relativement aux élections locales dans la commune de Yopougon. Pour sa part, le tabloïd Le Matin s'intéresse à l'avenir du PDCI, le plus vieux des partis politiques ivoiriens, au thème donc de ces élections locales. Un intérêt sous forme d'interrogation à travers son titre. Et si le PDCI renégociait avec le RHDP, avec la précision suivante, après sa débâcle électorale, que peut encore apporter le PPACI au PDCI ? Revenant sur les incidents qui ont émaillé ces élections locales en certains lieux, le quotidien L'Avenir propose comme titre de une dans sa parution de ce jour. Région du Guémont, reprise des élections dans le département de Quibli, la vérité sur les incidents ayant empêché la proclamation des résultats. Ce quotidien donc qui parle de graves révélations du préfet de région et tout sur le plan secret de l'opposition et des indépendants contre le candidat du RHDP. Et puis au niveau donc des élections sénatoriales qui vont donc avoir lieu le 16 septembre 2023, le quotidien gouvernemental Fraternité Matin lui consacre son titre de une avec le titre suivant. Sénatorial 2023, tout pour comprendre le scrutin. Fermons la page donc des élections avec notre voix qui, malgré la débâcle du FPI à ces élections, titre ce matin, met en avant l'alliance RHDP-FPI, municipale du 2 septembre à Abobo. Candia salue le triomphe de l'alliance RHDP-FPI. Alors Didier Blé, c'est sûr qu'actuellement aussi dans vos assiettes, vous devez sentir cette hausse du prix du riz à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Forcément, c'est un...
N'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Alors, deux quotidiens s'intéressent ce matin à leur, dans leur titre de une à ce problème. D'abord l'Inter qui titre « Cherté de la vie, tout sur la crise du riz en Côte d'Ivoire. Les importateurs expliquent la hausse des prix. la réaction du ministère du Commerce. Et puis, lui un peu plus interrogateur, donc il s'agit du quotidien Le Rassemblement, offre comme titre « Hausse du prix du riz, que fait le ministère du Commerce ?» Voilà donc pour les titres de une les plus marquants quant à nos tableaux de Paris ce jour, Didier.
Merci infiniment au Cipotin. Je rappelle qu'on vous retrouve dans le journal de 8h. Nous en arrivons à l'invité de la rédaction, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Docteur Séverin Kouamé se prononce sur les récentes élections municipales et les régionales couplées du 2 septembre dernier au centre des échanges. Les bonnes performances du RHDP et des candidats indépendants. Que retenir ? L'invité de la rédaction dans un entretien conduit par Marthe Kakou.
Docteur Séverin Kouamé, bonjour.
Bonjour Madame Kakou.
Les élections locales ont eu lieu le 2 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Alors, quel regard jetez-vous sur le déroulement de ces scrutins?
En dehors de quelques îlots de tension et de violence, de façon globale, les élections se sont déroulées dans un environnement relativement apaisé parce que la mémoire collective est fortement affectée par les épisodes de violence qu'il y a toujours eu lorsqu'il y avait des moments d'élection. Ça va même au-delà du jour même du scrutin. On a eu des moments de tension lorsqu'il s'est agi de l'enrôlement sur les listes électorales. Il y a eu toute la problématique de la transhumance électorale qui a généré quelques tensions. Le jour du scrutin, fondamentalement, en dehors de quelques incidents localisés, c'était pas le vote qui était le problème, c'était toute la question du dépouillement, de la gestion des résultats, de la transmission de ces résultats et de la consolidation de ces résultats pour leur proclamation. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire au niveau de la commission électorale pour justement crédibiliser ce processus parce qu'il cristallise encore des tensions et va générer la question même de l'acceptation de la défaite ou de la victoire autour d'une élection. C'est comment on rend ce processus plus professionnel, plus lisible, de sorte que les uns et les autres acceptent le verdict des unes parce que, de leur point de vue, le suffrage exprimé serait en adéquation avec la réalité du vote qui a été fait.
Au terme de la proclamation des résultats provisoires par la CEI, l'on constate que certaines personnalités n'ont pu être réélues dans leur circonscription. Comment expliquez-vous cela?
La grande question, c'est de savoir qu'est-ce que ces personnes n'ont pas assez fait pour que la population les désavoue, malgré le statut de grosse tête ou d'élite, ou etc., qu'on peut leur donner. Donc là-dessus, il y a quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Les populations ne sont pas dupes. Elles évaluent, parfois elles savent sanctionner, parce que justement, certains prennent pour acquis leur notoriété et considèrent cela comme un capital suffisant pour se faire élire. Il y a un travail de fourmi à faire, il y a un travail de proximité à faire avec les populations, de sorte qu'aujourd'hui, dans de nombreux contextes, les gens ont tellement de besoins que lorsqu'ils ont le sentiment que, indifféremment de la carrière de cette personne, cette dernière est en capacité d'être à leur côté, ben, il y a un minimum de reconnaissance qui se traduit par un vote actif à leur faveur. Donc, je pense que le personnel politique doit se remettre en cause, doit questionner la façon dont elle démarche les populations, parce que c'est pas partout qu'on vote juste parce qu'on a l'aura d'un parti ou parce qu'on a une réputation de ponte d'un régime qui nous précède. Il y a aussi que, parfois, il y a une fatigue, il y a du désespoir, de la désespérance, qui fait qu'on peut aussi aller vers des candidatures alternatives parce qu'on est fatigué de ce qu'on voit toujours les mêmes personnes et rien n'est chance dans notre quotidien.
Docteur Séverin Kouamé, l'organisation de ces élections a été critiquée. Dans certaines localités, surtout, les bureaux ou centres de vote ont ouvert tard. Et de plus en plus, on parle de l'implication de certains agents électoraux dans des cas de fraude supposée. Qu'en pensez-vous?
Vous savez, la critique, elle est aisée, mais à l'ouvrage, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Nous avons une démocratie qui se construit sans absoudre la commission électorale de toutes ces choses qu'on peut lui reprocher. Il faut reconnaître que du travail a été fait. Maintenant, notre ingénierie, notre démarche pour organiser des élections est perfectible. Le personnel en charge de la gestion justement du scrutin a besoin d'être professionnalisé. Je crois qu'il faut peut-être mener la réflexion dans ce sens. On peut tirer leçon de tout ça parce qu'on est dans une démocratie qui est perfectible. Donc, il faut faire un état des lieux. Il faut du personnel qualifié, il faut du personnel professionnel bien formé qu'on peut utiliser lors des différents suffrages de sorte que plus personne ne doute de la façon dont le vote des Ivoiriens qu'il faut respecter, comment ce vote est décompté et transmis de sorte que les résultats soient conformes à ce qui a été fait et au suffrage qui se sont exprimés sur le terrain. Donc là-dessus, je pense qu'il faut en tirer les leçons et améliorer le processus. Même les grandes démocraties souffrent aussi de certains dysfonctionnements dans leur processus électoral.
Docteur Séverin Kouamé, des contentieux naissent un peu partout. Des candidats qui au départ avaient reconnu leur défaite et félicité leurs adversaires ces candidats se retournent à nouveau pour porter plainte contre les vainqueurs. Il y a bien quelque chose qui ne va pas quelque part.
Il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit. Le contentieux fait partie du processus. S'il se trouve que, sur l'instant, ils estiment qu'ils ont été battus à la loyale, mais que, sur le court terme, ils ont d'autres éléments qui leur permettent de contester la victoire de leur adversaire, c'est leur droit. Je pense que tout ça n'arriverait pas si on avait un processus qui, mené de façon professionnelle, permette aux uns aux autres, au moment où le dépouillement est fait, où les voix sont comptabilisées, qu'ils aient la certitude qu'ils ont été battus ou qu'ils ont gagné, mais de façon transparente. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Justement, il y a toujours la voie ouverte au consensus. Même s'ils ont félicité, ça ne donne pas force de loi à la victoire de l'autre. En tant que démocrate, en tant que gentleman, ils peuvent féliciter, mais sur la base d'éléments d'information qu'ils ont à un moment X, mais à un moment Y, s'ils ont d'autres éléments, ben, ils sont en droit. Et ça, la loi le leur permet, donc ils peuvent naturellement exercer ce recours.
Docteur Séverin Kwame, je vous remercie.
Merci, Madame Kakou.
Voilà, c'était l'invité de la rédaction, le sociologue universitaire Séverin Kwame était interrogé par Marthe Kakou entre le succès du RHDP, le tour de force des candidats indépendants et le contentieux, un entretien que vous avez pu suivre et qui referme ce 7 heures, le rappel des titres. L'élection des sénateurs prévue le 16 septembre prochain, les affiches et spécimens de vote ont été remis aux candidats par la CEI. L'occasion également saisie par le président de cette institution pour indiquer que les recours devant le Conseil d'État en ce qui concerne les élections locales du 2 septembre dernier ne constituent pas un obstacle à l'organisation des sénatoriales. Et puis actualité sur le continent, après le séisme, le Maroc accepte l'aide de 4 pays dont l'Espagne et le Qatar, mais le bilan lui s'alourdit toujours, on dénombre un peu plus de 2200 morts. Nous serons là pour le journal de 8h. D'ici là, retrouvez Sonia Nzian pour la suite des Matins de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.